Donc l'idée, c'est de manger bio, local, solidaire, de partager un moment ensemble.
Et alors bio, nous, on le dit pas, on n'emploie pas ce terme-là, parce qu'effectivement, ça supporte beaucoup de contradictions et de discussions. On dit plutôt sans poison, c'est-à-dire qu'en fait, on parle plutôt de l'orientation vers laquelle on a envie d'aller que du label lui-même. Voilà, local, oui, mais bien sûr, où s'arrête le local? Donc ça aussi, il faut définir, faut définir un peu. Mais bon, il nous arrive bien souvent de faire des lentilles corail, donc qui viennent de Turquie. Il nous arrive bien souvent de ne pas cuisiner que du riz de Camargue, mais du riz italien ou thaïlandais. Donc bon, on a beau faire des efforts, vouloir localiser la nourriture, on est pétri quand même par des réflexes qui font qu'on va chercher très très loin la nourriture depuis assez longtemps. C'est pas aussi simple de créer de la diversité en partant de la localité, même si pourtant la diversité existe vraiment. À Uzès, on connaît un producteur de lentilles. Lentilles, pois chiches, bon, lentilles, pois chiches, riz, on s'en sort. Mais ensuite, bon, ben voilà, lentilles corail, des riz un peu parfumés, l'huile d'olive, par exemple, c'est impossible d'acheter de l'huile d'olive française. C'est insurmontable en termes de prix, donc elle vient d'Espagne ou d'Italie. Voilà, une huile française... Une huile est française selon la législation à partir du moment où il y a 60% d'olives françaises. Donc, en fait, une huile d'olive, sauf huile de producteur, n'est jamais française dans la grande distribution. Enfin, française, on s'en fout qu'elle soit française. Mais je veux dire, c'est un mélange. Voilà. C'est un mélange. Donc, les huiles d'olive de producteur en France sont très chères. Donc, c'est pas simple de trouver une bonne huile d'olive de producteur. Là aussi, on est obligé de... Enfin, on est obligé. Ça se discute, mais en tout cas, si on veut une bonne huile de producteur abordable, on va vers les pays où c'est cultivé de façon conséquente. Donc l'Espagne, l'Italie, la Crète, la Tunisie, le Maroc, par exemple. Bon, donc l'histoire de la localité, c'est une complexité quand même, la localité. Tandis que des pratiques culturales, là, c'est quand même très prégnant tout de suite. Et aller vers des agriculteurs qui ont le souhait de faire bien et de préférence sans trop de traitements, et en allant chercher en s'appuyant sur un label qui est pas forcément AB, qui peut être Nature et Progrès, qui est un label beaucoup plus fin dans son approche, nécessairement moins institutionnel que ne l'est AB. Bon, bref. Donc là, les pratiques culturelles, c'est tout de suite... Il y a une immédiateté, quoi. L'histoire de la localité, ça nous met, en déséquilibre, à cloche-pied, parce qu'on est pris dans des habitudes alimentaires qui sont profondes. Tandis que le bio, ça a beau être une avancée technique dans les pratiques culturelles, c'est-à-dire qu'il y a, dans la pratique agro-biologique, il y a vraiment des avancées techniques. Donc il y a oui, c'est ça, je ne peux pas le dire autrement, des avancées techniques qui n'avaient pas cours avant les années 70, 60. Et ces avancées techniques peuvent nous faire penser à comment les anciens cultivaient sans intrants. Mais pour autant, il y a des avancées techniques parce qu'on a découvert des choses, parce qu'on a cherché, parce qu'on est beaucoup plus sur des cultures d'association. Tout ça pour dire que le bio a une place réelle, une prégnance qui n'est pas juste le fait de dire on met pas d'intrants, on met pas de pesticides, on met pas de fongicides. Non, c'est pas que ça. C'est une évolution dans les pratiques culturelles. Il y a de la technique qui est réfléchie, qui est fondée, qui est pratiquée, qui se vérifie. Et donc c'est un univers en fait, c'est pas juste une espèce d'idéologie de baba cool qui ne réalise pas ce que c'est que le métier de paysan. Non, ce sont de vraies pratiques qui elles aussi sont diversifiées. Il n'y a pas une façon de faire de l'agroécologie.